6.
Le shérif Ashworth, que tous les habitants de la ville ainsi que ses adjoints appelaient shérif John, comme le découvrit Tim, était un individu ventripotent qui se déplaçait lentement. Il avait des bajoux de basset et une épaisse chevelure blanche, et une tache de ketchup sur sa chemise d'uniforme. Il portait un glock à la ceinture et un rubis au petit doigt. Il possédait un fort accent, un tempérament débonnaire, mais ses yeux, enfoncés dans leurs orbites adipeuses, brillaient d'une lueur intelligente et curieuse. Il aurait pu jouer dans un de ces films remplis de clichés sur le Sud du style Tolérance Zéro, s'il n'avait pas été noir. Autre détail, un diplôme de la National Academy du FBI à Quantico était accroché au mur, dans un cadre, à côté de la photo officielle du président Trump. Pas le genre de choses qu'on recevait en envoyant des bons découpés sur des boîtes de cornflakes.
« Bon, » fit le shérif John en basculant au fond de sa chaise de bureau. « J'ai pas beaucoup de temps. Marcella déteste que je sois en retard pour dîner, sauf en cas de problème, évidemment. »«
Compris. »
Alors venons-en directement à l'essentiel. Pourquoi est-ce que vous avez quitté la police de Sarasota et qu'est-ce que vous venez faire ici? On peut pas vraiment dire que tous les chemins mènent en Caroline du Sud, et encore moins à Dupré.
Sans doute qu'Ashworth ne téléphonerait pas à Sarasota ce soir, mais il appellerait dès demain matin, alors inutile d'en faire trop. D'ailleurs, Tim n'en avait pas l'intention. S'il n'obtenait pas le poste de veilleur de nuit, il passerait la nuit à Dupré et reprendrait ensuite son voyage en saut de puce jusqu'à New York. Un voyage dont il comprenait maintenant qu'il représentait une pause indispensable entre ce qui s'était passé l'année précédente au centre commercial Westfield de Sarasota et ce qui pouvait arriver ensuite. Ces considérations mises à part, la franchise constituait la meilleure tactique. En tout premier lieu parce que les mensonges, à une époque où n'importe qui possédant un clavier et une connexion Wi-Fi avait quasiment accès à toutes les informations, se retournaient généralement contre le menteur.
On m'a laissé le choix entre la démission et le renvoi. J'ai choisi la démission. Personne n'était très heureux de cette décision, à commencer par moi. J'aimais bien mon métier et j'aimais bien la Gulf Coast, mais c'était la meilleure solution. Ça m'a permis de toucher un peu de fric, rien à voir avec une retraite à temps plein, mais c'est mieux que rien. J'ai partagé avec mon ex-femme. La raison? Faites simple, j'ai envie de manger mon dîner pendant qu'il est encore chaud.
Ce ne sera pas long. Un jour de novembre dernier, après mon service, j'ai fait un saut au centre commercial Westfield pour m'acheter une paire de chaussures. Je devais aller à un mariage. Je portais encore mon uniforme.
Ok. Au moment où je sors de chez Shoe Depot, une femme se précipite vers moi et m'informe qu'un ado a sorti un flingue au niveau du cinéma. Alors, ni une ni deux, je vais voir ce qui se passe. Vous avez sorti votre arme?
Non, shérif. Le gamin en question avait dans les 14 ans, et j'ai bien vu qu'il était ivre ou drogué. Il balançait des coups de pied à un autre gamin à terre. Il pointait son flingue sur lui.
Ça ressemble à cette histoire de Cleveland, le flic qui a buté le jeune noir qui brandissait un fusil à plomb.
C'est aussi ce que j'ai pensé. Mais le type qui a tiré sur Tamir Rice a juré qu'il était convaincu que le gamin brandissait une vraie arme. Moi, j'étais presque sûr que celle-ci était fausse. Mais je pouvais pas en être totalement sûr. Peut-être que vous savez pourquoi. Le shérif John Ashworth semblait avoir oublié son dîner.
Parce que le garçon pointait son arme sur le gamin allongé au sol. Quel intérêt de pointer une arme factice sur quelqu'un? Sauf, j'imagine, si le gamin couché par terre ne le savait pas.
Plus tard, il a affirmé qu'il agitait son arme devant le gamin, qu'il ne la pointait pas sur lui, en disant « C'est à moi, sale enfoiré, tu touches pas à ce qui est à moi ». D'après ce que je voyais, il le braquait avec son flingue. Je lui ai crié de lâcher son arme et de lever les mains en l'air. Il m'a pas entendu ou il s'en foutait. Il a continué à balancer des coups de pied au gamin à terre en pointant son arme sur lui. Alors j'ai dégainé mon pistolet de service. Tim marqua une pause avant de préciser « Sachez quand même que les deux gamins étaient blancs ».
Pour moi, ça fait aucune différence. Deux ados se battaient. L'un d'eux était à terre et recevait des coups. L'autre avait une arme, peut-être factice ou pas. Et ensuite, ne me dites pas que vous lui avez tiré dessus.
Personne n'a été blessé. Mais vous savez comment c'est. Les gens se rassemblent pour voir une bagarre. Et dès que quelqu'un sort une arme, ils décampent illico.
Évidemment. S'ils ont un peu de jugeote, ils prennent leurs jambes à leur cou.
C'est ce qui s'est passé. À part quelques curieux qui sont restés.
Pour filmer la scène avec leur portable.
Tim acquiesça.
Quatre ou cinq Spielberg en herbe.
Bref, je pointe mon arme vers le plafond et je tire. Un coup de semonce, comme on dit.
C'était peut-être une mauvaise idée, mais sur le moment, ça me semblait être la meilleure chose à faire. La seule. Sauf qu'à cet endroit du centre commercial, il y a des éclairages suspendus. Manque de bol, la balle atteint une des lampes qui tombe en plein sur la tête d'un des curieux. L'ado, lui, lâche son arme. Et là, en la voyant rebondir sur le sol, je suis sûr qu'elle est factice. En réalité, c'était un pistolet à eau en plastique fait pour ressembler à un 45 automatique. Le gamin couché par terre avec quelques bleus et quelques blessures, mais rien qui nécessite des points de suture. En revanche, le curieux, lui, il était dans les pommes. Et il l'est resté pendant 3 heures. Commotion cérébrale. D'après son avocat, il souffre d'amnésie et de graves migraines. Il a porté plainte. Oui, ça risque de prendre du temps, mais il finira par obtenir un peu de fric. Le shérif John semblait sceptique. S'il est resté pour filmer l'altercation, possible qu'il touche pas grand-chose malgré ses migraines. Je suppose que vos supérieurs vous ont accusé d'usage inconsidéré de votre arme. En effet, et ce serait bien si on pouvait en rester là, se disait Tim. Hélas, c'était impossible. Le shérif John ressemblait peut-être à une version afro-américaine de Boss Hogg dans « Shérif, fais-moi peur », mais il n'était pas idiot. De toute évidence, la situation de Tim lui inspirait de la compassion, comme à n'importe quel flic, mais cela ne l'empêcherait pas de se renseigner. Alors, mieux valait qu'il apprenne la suite de la bouche de Tim lui-même. Avant d'aller m'acheter des chaussures, j'avais fait un détour par le Beachcomber pour boire 2 petits verres. Le collègue qui a emmené l'ado au poste a senti l'alcool dans mon haleine et il m'a fait souffler dans le ballon. J'étais à 0,6, en dessous de la limite autorisée donc, mais c'était mauvais vu que je venais d'utiliser mon arme de service et d'envoyer un type à l'hôpital. Vous avez l'habitude de boire, monsieur Jamieson? J'ai pas mal picolé pendant 6 mois environ après mon divorce. Et c'était il y a 2 ans. Depuis, fini. Il n'allait pas répondre autre chose, évidemment.
Résumons.
Le shérif dressa un index boudiné. Vous aviez fini votre service. Par conséquent, si vous aviez quitté votre uniforme, cette femme n'aurait pas couru vers vous au départ. Sans doute pas. Mais en entendant ce vacarme, je serais quand même allé voir ce qui se passait. Un policier est toujours en service. Vous le savez bien, je parie.
Mais vous n'auriez pas eu votre arme sur vous, si?
Non, je l'aurais laissée dans ma voiture. Ashworth dressa un deuxième doigt pour souligner ce point, et il en ajouta un troisième.
L'arme de l'adolescent était certainement factice, donc, mais ça aurait pu être une vraie. Vous ne pouviez pas le savoir.
Exact. Intervention du doigt numéro 4.
Votre tir de semonce a atteint une lampe. Non seulement elle est tombée, mais elle a assommé un passant innocent. Si on peut appeler ainsi un connard qui filme avec son téléphone.
Tim hocha la tête. Le pouce du shérif se dressa à son tour.
Il se trouve qu'avant cette altercation, vous aviez ingurgité 2 verres d'alcool.
Oui, en uniforme.
Mauvaise décision. Mauvaise... comment ils appellent ça? Perspective. Néanmoins, je continue à penser que vous avez été victime d'une succession de malchances complètement dingues.
Le shérif John tambourinait sur le bord de son bureau. Sa bague en rubis, portée à l'auriculaire, ponctuait chaque roulement d'un petit bruit sec.
Votre histoire est trop délirante pour ne pas être vraie, mais je crois que je vais quand même appeler votre ancien employeur pour vérifier par moi-même. Ne serait-ce que pour m'émerveiller encore une fois en écoutant cette histoire.
Tim sourit. Ma supérieure était Bernadette Dipino, chef de la police de Sarasota. En attendant, vous feriez mieux de rentrer pour dîner, sinon votre femme va être furieuse.
Merci, c'est mon affaire.
Le shérif se pencha en avant en s'appuyant sur son ventre. Ses yeux brillaient de plus belle.
Si je vous faisais souffler dans l'alcotest maintenant, monsieur Jamieson, qu'est-ce que ça donnerait?
Allez-y, vous verrez.
Non, je crois que je ne verrai rien. Inutile.
Le shérif bascula de nouveau en arrière et son fauteuil émit un autre gémissement de douleur.
Pourquoi vous voulez ce boulot de veilleur de nuit dans un bled paumé comme ici? C'est payé seulement $100 la semaine, et si c'est plutôt tranquille du dimanche au jeudi, ça se dégrade parfois les vendredis et samedis soirs. La boîte de striptease de Penley a fermé l'an dernier, mais il y a plusieurs bars plus ou moins malfamés dans le secteur.
Mon grand-père était veilleur de nuit à Hibbing, dans le Minnesota, la ville où a grandi Bob Dylan, après avoir pris sa retraite de la police d'État. C'est grâce à lui que j'ai voulu devenir flic quand j'étais gamin. En voyant son insigne, je me suis dit...
Tim haussa les épaules. Que s'était-il dit au juste?
À peu près la même chose que lorsqu'il avait accepté ce boulot dans l'usine de recyclage.
Rien du tout.
Il songea qu'il se trouvait peut-être, mentalement au moins, pris entre deux feux.
Vous marchez sur les traces de votre grand-père.
Le shérif John joignit les mains sur son ventre imposant et dévisagea Tim, de ses yeux inquisiteurs enfoncés dans leurs poches de graisse.
Vous vous considérez comme un retraité, c'est ça? Vous cherchez une occupation afin de tuer le temps? Vous êtes un peu trop jeune pour ça, non?
Retraité de la police, oui.
Fini.
Un ami a promis de me trouver un poste dans la sécurité à New York, et j'avais envie de changer de décor.
Mais peut-être que je ne serai pas obligé d'aller jusqu'à New York.
En vérité, devinait-il, ce qu'il voulait, c'était changer d'avis. Ce boulot de veilleur de nuit n'atteindrait pas forcément cet objectif, mais peut-être que si.
Vous êtes divorcé, disiez-vous?
Oui. Des enfants? Non. Elle en voulait, pas moi. Je me sentais pas prêt.
Le shérif John reporta son attention sur le formulaire rempli par Tim.
Je vois que vous avez 42 ans. Généralement, si vous n'êtes pas prêt à cet âge...
Comme tout policier qui se respecte, il laissa sa phrase en suspens, attendant que Tim comble le silence. En vain.
Je ne doute pas que vous ayez l'intention de vous rendre à New York, monsieur Jameson, mais pour l'instant, vous allez là où le vent vous porte. Est-ce qu'on peut dire ça?
Tim réfléchit et conclut qu'on pouvait le dire.
Si je vous donne ce poste, qui me dit que vous n'allez pas décider de repartir on ne sait où dans 15 jours ou un mois? Duprès n'est pas l'endroit le plus intéressant au monde, la Caroline du Sud non plus. Alors je vous pose la question, monsieur, comment être sûr que je peux compter sur vous?
Je ne laisserai pas tomber. Si vous estimez que je fais du bon boulot, s'entend. Dans le cas contraire, vous pourrez toujours me virer. Et si jamais je décide d'aller voir ailleurs, je vous préviendrai longtemps à l'avance. Vous avez ma parole.
Ce travail ne permet pas de vivre.
Tim haussa les épaules.
Je trouverai autre chose s'il le faut. Ne me dites pas que je serai le seul type dans le coin qui fait plusieurs boulots pour joindre les deux bouts. Et puis, j'ai un peu d'argent de côté pour commencer.
Le shérif John demeura muet et immobile un long moment. Il réfléchissait. Finalement, il se leva, avec une étonnante agilité pour un homme aussi lourd.
Revenez demain matin, on verra ce qu'on peut faire. Vers 10 heures, ce sera très bien.
Ce qui vous laisse largement le temps de contacter la police de Sarasota, pensa Tim, afin de vérifier mon histoire, et voir s'il n'y a pas d'autres tâches dans mon dossier. Il se leva à son tour, main tendue. Le shérif John avait une poigne d'acier.
Où allez-vous loger cette nuit, monsieur Jameson?
Au motel, un peu plus loin. S'il leur reste une chambre.
Oh, je suis sûr que Norbert a encore plein de chambres. Et ça m'étonnerait qu'il essaie de vous vendre de l'herbe.
Vous avez gardé un petit air de flic?
Si vous n'avez pas de problème pour digérer la friture, Bev's, au bout de la rue, est ouvert jusqu'à 23 heures. Personnellement, je raffole de leur foie aux oignons.
Merci. Et merci de m'avoir reçu.
De rien, c'était une conversation intéressante. Et dites à Norbert au motel que le shérif John veut qu'il vous donne une bonne chambre.
J'y manquerai pas.
Cela étant, regardez quand même s'il n'y a pas de bestioles dans le plumard avant de vous coucher.
Tim sourit.
On m'a déjà donné ce conseil.